va passer à un module plus démonstratif sur la mise en œuvre de ce fameux Active Directory pour mes deux PC, Windows 8.1 et Windows 8.2 de Bruno et Benjamin. Petite contrainte à rappeler, ça fait pas de mal. Pour créer un domaine Active Directory, une forêt, il est obligatoire de disposer d'un DNS interne. Votre DNS public ne suffit pas. Si vous ne savez pas très bien gérer un DNS interne, ne vous inquiétez pas, les assistants d'installation Active Directory installent tout ce qu'il faut, le configurent convenablement et ça tourne très bien. On va le voir d'ailleurs dans l'immédiat. Alors, je vous prépare un petit peu. Voilà. Donc, à ces fins, pour créer mon deuxième domaine, j'ai une machine Windows Server appelée DC1, la mienne bien nommée, DC1 pour Domaine Contrôleur. Il faut appuyer sur CTRL-SUPRE. Avec cette fois des mots de passe un peu plus compliqués, il s'agit d'un serveur, la configuration par défaut un peu plus complexe. Et il s'agit bien d'un serveur qui pour l'instant est toujours en workgroup, comme le précédent. Enfin, comme les postes Windows 8. Donc pour installer l'Active Directory, ce n'est pas très dur, j'ajoute le rôle adéquat dans le gestionnaire de rôle. Et donc le rôle adéquat s'appelle service ADDS. C'est bien marqué, les services de domaine Active Directory. Voilà. Donc pour rappel, ici, pendant que j'installe un rôle sous Windows Server, en fait, il ne configure rien du tout. Il met des binaires aux bons endroits dans l'arborescence Windows et c'est tout, la configuration se fera après. Pour ceux qui connaissaient Windows Server avant Windows 2012, pour installer un contrôleur de domaine, il lançait une brave commande qui s'appelle DC Promo, pour promotion en contrôleur de domaine. D'une certaine manière, cette commande n'existe plus, elle existe toujours, tout simplement en me disant que c'est terminé, on ne peut plus faire DC Promo, vous retournez dans le gestionnaire de serveur et vous faites tout depuis le gestionnaire de serveur. Si pour les amoureux de la ligne de commande, vous pouvez le faire en commandlet PowerShell. Donc voilà, l'installation de la fonctionnalité est terminée. Et là, dans mon centre de notification du gestionnaire de serveur 2012, j'ai un petit triangle jaune qui me dit bah, « le voilà le fameux assistant, promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ». Donc, qu'est-ce que je veux faire? Ajouter un nouveau contrôleur à un domaine existant? Non, bien sûr, bon, je lis, hop, bien sûr, je veux ajouter un nouveau domaine. Que je vais appeler mva.lan. Fait quelques petites vérifications, réseau. On peut faire plusieurs choix ici, et notamment, j'en ai parlé tout précédemment, il me propose par défaut d'installer un serveur DNS. Un catalogue global aussi, on en parlera dans le prochain chapitre. Et là, très important, un mot de passe de restauration Active Directory. C'est-à-dire que si vous sauvegardez votre Active Directory, ce qui est fortement recommandé, lorsque vous voudrez la restaurer, il faudra que vous connaissiez ce mot de passe, qui n'est pas nécessairement le même que le compte administrateur. Donc souvenez-vous-en. Voire stockez-le dans un endroit judicieux et sécurisé. Bien, donc là, il fait quelques petites vérifications réseau pour voir si le nom de domaine est bien disponible. Il n'est pas déjà pris, ça va. On peut faire suivant. Je vais choisir donc par la suite les chemins d'accès où je stocke l'Active Directory, donc vous pouvez les stocker à l'emplacement par défaut ou décider de les stocker ailleurs, il n'y a pas de problème. Il s'agit d'une base de données, donc classique, une partie données pures, partie journal de la base de données, et une partie qui sera du système de fichiers purs. Tout ce qui est dans ce répertoire-là est répliqué sur tous les contrôleurs de domaine de mon domaine. Je vais laisser les paramètres par défaut. Et c'est parti, je fais suivant. Il fait quelques petites vérifications de plus. Voilà. Terminé. Quelques warnings pas très importants. Vous les lirez à l'occasion. En gros, il me dit que mes machines NT4, s'il m'en reste, ne marcheront pas dans ce domaine, sauf si je m'en vais faire des réglages dans le fameux domaine en question. Si vous avez du NT4, vous vous renseignerez, s'il vous en reste. Donc voilà, ça va prendre un certain temps. On ne va pas le laisser aller jusqu'au bout, pour ça j'ai des snapshots. Juste pour vous indiquer la différence par rapport à d'autres versions précédentes pour ceux qui installaient des contrôleurs de domaine, à la fin de cet assistant, le serveur va rebooter tout seul, il ne va pas me poser de questions. Ça veut dire que vous pouvez partir déjeuner et revenir, ça sera terminé, le serveur aura rebooté, l'Active Directory sera installé. Donc pendant ce temps-là, nous, on va avancer. J'ai des snapshots sur mes machines virtuelles qui me permettent d'aller un petit peu plus loin. Et donc, d'avancer dans le temps et de ne pas attendre que tout soit terminé, puisqu'un DC promo, c'est un petit peu long. Bien, bah, puisque apparemment mon DC promo est terminé, je vais vérifier. Voilà, ça part bien. L'authentification me dit bien MVA anti-slash administrateur, donc le domaine est bien créé. A priori, je vais vérifier ici. Maintenant, je suis bien dans le domaine MVA.lan. Ben, profitons-en, je vais regarder un petit peu l'outil de base. L'outil qu'on ne reverra pas assez souvent par la suite dans ce cours, utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc, pour l'instant, je retrouve une arborescence beaucoup moins riche que celle des diapositives précédentes, à moi de la faire. Un petit conseil, une bonne pratique, évitez d'aller créer vos propres objets dans la rubrique User. C'est un petit peu comme si vous créiez des fichiers dans le répertoire Windows, du système de fichiers. Ça, c'est plutôt réservé à Windows, c'est pas vraiment pour nous. Après, ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'aller travailler pour savoir qui est administrateur. C'est moi qui décide qui sont les administrateurs. Mais je ne vais pas créer des choses, je vais faire juste des modifications. Donc, bah, j'en profite. Je vais commencer par créer une première unité d'organisation de cette manière, que je vais appeler tout bêtement MVA. Dedans, on verra, je vais faire ma petite arborescence de tout à l'heure et ça sera réglé. Au passage, je le ferai plus tard, on constate qu'il existe des containers bien nommés comme computers. Tiens, j'avais dit qu'il y aura des ordinateurs dans l'Active Directory, pour l'instant aucun. Une unité d'organisation appelée Domain Controllers, là bien nommée, qui contient justement mon compte d'ordinateur DC1, qui est ici. Bien, bon voilà, fin de la démonstration, le domaine est bel et bien créé, c'est réglé. On va donc passer à une nouvelle démonstration, mes premiers pas dans l'Active Directory. Voilà. Avec au préalable, pour que ce soit plus agréable, je vais intégrer mes deux machines Windows 8 dans cette Active Directory pour voir ce que ça fait. Donc, bah voilà, je suis sur la première, celle de Bruno au préalable. Il me dit, bah voilà le nom de complet de l'ordinateur, il est toujours dans un groupe de travail, terminé. Je vais le mettre dans le domaine MVA, en essayant de ne pas faire trop de fautes de frappe. Hop, un utilisateur lambda qui n'existe pas. Donc je vais prendre plutôt l'utilisateur administrateur. Il faut s'authentifier pour rejoindre l'Active Directory. Nous l'avons rejoint, nous sommes bienvenus, c'est réglé. Il va falloir rebooter le poste Windows 8. Très bien, hop, pendant ce temps-là, je vais sur le poste Windows 8.-2, faire la même chose. Donc comme ça, vous l'aurez vu deux fois. Terminé, bienvenue, rebooté. Pendant ce temps-là, le poste Windows, le premier poste Windows a presque fini de rebooter. C'est un petit peu long. Donc on va le laisser rebooter tranquillement, retourner, voir ce qui s'est passé dans le domaine. Bien, dans la rubrique Computers qu'il y avait ici, je fais un rafraîchissement. Et je trouve bien deux comptes d'ordinateurs du nom des ordinateurs qui viennent de rejoindre le... domaine. Donc, je vais pouvoir commencer à faire ma petite arborescence. Elle sera quand même moins riche que dans les diapos. On ne va pas passer son temps à faire de l'arborescence. D'unité d'organisation dans laquelle je vais mettre mes ordinateurs. Et une autre unité d'organisation qui s'appellera tout simplement utilisateur. Et je ne vais pas mettre toutes les fonctions de l'entreprise comme précédemment. Histoire de bien ranger les choses, ben, je vais prendre mes deux comptes Windows 8, je vais les mettre dans l'ordinateur, il me demande de confirmer, pas de problème, c'est fait. Voilà. Et je vais créer mes utilisateurs Benjamin et Bruno. Donc à cette fin, je vais dans Utilisateur. Bon, alors, je vais faire le premier assez bien. Vous voyez que je peux mettre toutes les infos. Ici, dans un premier assistant, pas mal d'informations. Paramètre très important, ça c'est le paramètre qui permet à l'utilisateur d'ouvrir une session, c'est celui qu'il doit connaître. Son nom, il le connaît déjà, j'imagine, sans peine. C'est moi qui fixe son mot de passe dans un premier temps, et afin qu'il le change et qu'il mette le sien, ben, j'exige qu'il doit changer ce mot de passe à la prochaine ouverture de session, et il faut vraiment le prendre au pied de la lettre, il ne pourra pas remettre le même. Donc, bon, comme là, c'est moi qui joue le rôle de trois personnes, l'administrateur, Bruno et Benjamin, je vais arrêter de changer les mots de passe sans arrêt, c'est terminé. Dans la foulée, je vais créer le compte Benjamin. Et puis là, je vais faire plus simple. Je vais me contenter du nom complet. Essayer d'éviter de faire quelques fautes. Son mot de passe. Voilà, terminé. Alors comme je vous le disais précédemment, je peux indiquer pas mal d'informations au niveau de l'annuaire, hein, finalement, sur Bruno Dubois, son numéro de téléphone principal, mais aussi, s'il a beaucoup de numéros de téléphone, j'ai de quoi m'amuser. Son adresse email, sa page web, si jamais il gère un compte web, son adresse. Voilà ce qui concerne, en fait, l'information de Bruno Dubois. Après, tout le reste est fonctionnel. Ici, on retrouve l'utilisateur doit changer son mot de passe comme on l'avait tout à l'heure. Voilà, bon, je ne vais pas m'amuser à remplir ça, mais ce n'est pas une mauvaise chose de remplir ces choses-là. Comme ça, on peut les retrouver dans beaucoup d'endroits, et notamment dans Outlook. Les parties informatives peuvent se retrouver dans Outlook si elles sont remplies à ce niveau-là. Voilà qui clôture cette démonstration. Continuons avec mon Active Directory, et on va parler de quelque chose qui va me permettre d'avoir beaucoup de valeur ajoutée vis-à-vis de l'Active Directory, les GPO, traduction littérale de Group Policy Object. Qu'est-ce que c'est que ces GPO? Ce sont des ensembles de paramètres qui visent à modifier des clés du registre. Donc on peut en déduire à configurer entièrement Windows et l'environnement utilisateur. Nous allons donc imposer certains, on va pouvoir imposer hein, certains réglages via l'Active Directory et ces fameux GPO. Alors imposer étant majuscule ici parce qu'on va, je vous le démontrerai, l'utilisateur et même l'administrateur, lorsqu'un paramètre est imposé via GPO, ne peut plus être modifié, si ce n'est en revenant dans la GPO. Un petit peu de vocabulaire qu'on va retrouver plus concrètement dans la démonstration qui va suivre. On va parler de classes. Les deux points d'entrée principaux d'un GPO sont configuration ordinateur et configuration utilisateur, qui correspondent respectivement aux ruches HKLM et HKCurrentUser. Dans ces deux grandes classes, on trouve tout un tas de catégories qui sont tout simplement une organisation pour ranger les paramètres. Enfin, on trouve les paramètres. Alors, un exemple de paramètre qu'on utilisera tout à l'heure, désactiver l'accès au panneau de configuration. Et enfin, dans chaque paramètre, il existe des valeurs qui est un code à trois états, activé, désactivé ou non configuré. Non configuré étant par défaut, on va y revenir après. Donc, ben voilà, on va faire une petite démonstration, présentation de l'interface des GPO. Donc, avant de partir dans cette interface des GPO, on va en profiter pour ouvrir des sessions. Maintenant que mes ordinateurs Windows 8 ont redémarré, on va en profiter pour ouvrir des sessions, cette fois sur le domaine. Terminé, Bruno, compte local de Windows 8-1, on va dire, je veux ouvrir une session sur le domaine MVA. Avec le mot de passe beaucoup plus long que tout à l'heure, d'ailleurs. Si vous avez bien suivi, par rapport au module 1. Donc là, c'est parti sur l'écran de bienvenue et d'initialisation d'une session Windows 8. C'est un petit peu long, donc c'est pour ça que je le fais maintenant. Ça sera réglé. Hop, je fais la même chose sur l'ordinateur de Benjamin. Avec une faute. Voilà, c'est parti. Nous pouvons revenir sur notre contrôleur de domaine et nos stratégies de groupe. Donc pour ça, j'ai un outil bien nommé, gestion des stratégies de groupe. Avec une petite arborescence, je retrouve tous mes domaines si j'en ai plusieurs, en l'occurrence j'en ai qu'un seul. On reviendra là-dessus, et une rubrique objet stratégie de groupe qui m'affiche en ligne toutes mes stratégies de groupe. Pour l'instant, je n'en ai que deux. Souvenez-vous, je viens d'installer l'Active Directory. Sachez que par défaut, vous avez ces deux-là. Je vous déconseille fortement de les supprimer. Vous pouvez bien entendu les modifier, mais ne les supprimez pas, sinon il va y avoir des bizarreries dans votre environnement Windows. Pour ceux qui malheureusement l'ont fait, il existe une commande qui s'appelle dcgpofix, qui permet de recréer l'une ou l'autre, voire les deux, hein, comme c'est marqué ici, domaine, DC ou les deux. Bien, moi, je vais plutôt en créer une nouvelle, la mienne. Bien, donc, je vais l'ouvrir, modifier, et on retrouve ce dont je vous ai parlé pendant la partie vocabulaire, c'est-à-dire les deux grands points d'entrée, ordinateur, utilisateur, toutes les catégories, et là, il y en a, je vous le dis, des milliers, le but n'est pas de les voir dans ce cours-là, dans aucun cours, le but est de se familiariser avec un grand ensemble, les grands modèles, après il faut faire un peu de recherche. Donc, histoire d'aller voir une que je vais paramétrer dans pas longtemps. Raté. Bah si, normalement. Voilà. Le panneau de configuration, par exemple, mais je me suis trompé de rubrique, effectivement. Je veux aller faire ça au niveau de l'utilisateur. Donc, panneau de configuration, par exemple, je peux interdire l'accès au panneau de configuration. Petite information par rapport à ça. Ici, nous avons une affirmation et les trois états. Activer signifie « je dis oui à l'affirmation », désactiver signifie « je dis non à l'affirmation ». C'est-à-dire que cette configuration, si je la laisse telle qu'elle, signifie « l'accès au panneau de configuration est forcément autorisé ». En l'occurrence, je ne veux pas. Et non configurer, ça signifie quoi? Ça signifie laisser le paramètre par défaut, ou on le verra plus tard, le paramètre hérité. Pour l'instant, dites-vous que ça veut dire paramétrage par défaut. Donc je l'active et donc j'interdis l'accès au panneau de configuration. Ok. Je vais faire un autre petit réglage qui va m'aider pour la suite dans mes démonstrations. Admettons que je veuille régler le pare-feu Windows de mon organisation, notamment lorsque les utilisateurs sont physiquement présents sur mon réseau. Donc quand ils sont physiquement présents sur mon réseau, au niveau de leur profil réseau, justement, ils sont dans un réseau avec domaine. Et à ce niveau-là, je peux avoir envie de dire, je fais des réglages un peu plus souples au niveau du pare-feu afin d'avoir un peu plus de fonctionnel. Là, je vais faire encore beaucoup plus laxiste. Je vais carrément le désactiver, mais ça ne sera désactivé que si on est sur le réseau du domaine. Donc, c'est-à-dire que la personne, dès qu'elle quitte l'entreprise, si elle a un portable, le pare-feu se réactive sans problème. Donc pour ça, je vais juste vous montrer, on retrouve l'interface classique du pare-feu avancé de Windows 8 avec les règles de trafic entrant que je peux ajouter, sortant aussi. Et je vais tout simplement faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire désactiver le pare-feu dans le profil de domaine. Ça y est, c'est réglé. Donc voilà, j'ai fait mon premier GPO, test MVA, sur lequel je peux voir les paramètres que j'ai configurés. Exemple, enfin, c'est pas par exemple, c'est j'ai interdit l'accès au panneau de configuration, j'ai désactivé le pare-feu au niveau du profil de domaine, j'ai ici un état de ce que j'ai fait. C'est très bien. Donc voilà pour un première prise de main avec mes GPO. Très bien. Cependant, mes GPO, le GPO que je viens de faire en soi est un objet autonome dans l'Active Directory. Pour l'instant, il ne sert à rien, j'ai fait une configuration et c'est tout. Il va falloir que j'applique ce GPO à quelque chose, pas forcément au singulier, d'ailleurs ça peut être appliqué à plusieurs choses. Un même objet peut être appliqué à plusieurs choses. Donc on va faire ce qu'on appelle une liaison de la stratégie à un niveau de l'arborescence d'unité organisationnelle, ou bien à la racine du domaine, ou bien carrément à un site géographique. Dans l'Active Directory, on le verra dans le module 4, il existe un concept de géographie physique, donc ça pourrait signifier que je peux faire une configuration pour tous les gens qui sont par exemple à Paris, une autre pour ceux qui sont à Nantes, etc. Bon, pour l'instant, je vais faire simple. Moi, mon objet, en démonstration, je vais l'appliquer à mon unité d'organisation MV1. Donc pour ça, c'est très simple. Je retrouve ici mon unité d'organisation MVA avec mon arborescence ordinateur utilisateur. Raté, j'ai lâché la souris trop tôt. Je vais la relier. Vous êtes sûr de relier cette GPO? Oui. Et ici, ça se voit graphiquement. Je vois bien ici une icône de petit raccourci qui dit « J'ai une liaison de ce GPO à l'unité d'organisation MVA ». Donc, ce qui signifie que tout ce qu'il y a dans MVA, et pour l'instant, j'ai pas grand-chose, j'ai deux utilisateurs, tout ce qu'il y a dans MVA, ben, va se voir contraint aux paramètres de cette GPO. Allons vérifier. Donc, si je vais sur l'ordinateur de Bruno, si je vais sur l'ordinateur de Bruno, donc ça y est, les choses sont ouvertes. Pour l'instant, je m'y attends, évidemment, j'ai l'accès au panneau de configuration. En fait, ma liaison de GPO n'a pas fonctionné parce qu'en réalité, ça n'a rien de dynamique. C'est avec une fréquence de, en moyenne, toutes les heures et demie, que chaque poste de travail va vérifier les différents, s'il y a des nouvelles GPO qui s'appliquent, des nouveaux paramètres qui s'appliquent à son environnement. Donc on ne va pas attendre une heure et demie, bien entendu. Soit je reboot, ce qui devrait être assez rapide. Donc le reboot n'est plus ici. Ce n'est pas encore ici. Hop. Soit je reboot parce que c'est assez rapide. Soit il existe une commande qui s'appelle GP Update. Donc nous allons rebooter le poste Windows 8.1 puisque ça va relativement vite. Et voilà, ça reboot. Le reboot est terminé, je réouvre une session en tant que Bruno Dubois et je vais pouvoir constater que mes GPO fonctionnent. Par exemple, est-ce que j'ai accès au panneau de configuration d'une manière générale? Non. C'est-à-dire que là, j'ai été très très violent, hein. Les utilisateurs risquent de se plaindre, ils ne peuvent même plus changer leur fond d'écran. On peut être un petit peu plus subtil au niveau des interdictions, je vous le dis, je vous le précise. J'ai été un petit peu violent. En ce qui concerne le pare-feu, ben, je n'y ai même pas accès, en effet. J'avais complètement oublié. Donc, il va falloir que j'ouvre une session administrateur sur ce poste de travail. Et tiens, je vais aller reprendre le vieux compte du premier module, Bruno, celui qui avait un mot de passe très simple, qui est administrateur du poste, qui lui n'est pas dans l'AD, donc lui a le droit au panneau de configuration. Donc, il peut voir le centre réseau et partage. Il peut aller voir l'état du pare-feu. Et qu'est-ce qu'il constate? Que le réseau avec domaine est désactivé, que certains, on le prévient, certains paramètres sont gérés par l'administrateur système. Ça signifie bien l'imposition du paramètre désactivé. C'est-à-dire qu'il veut le réactiver, il ne peut pas. C'est grisé, terminé. C'est imposé par GPO. Si on veut le réactiver, c'est via les GPO qu'il faut le faire. Bien, donc on vient de voir qu'on pouvait assez finement, même si je n'ai pas été très fin comme je vous le disais, assez finement paramétrer l'environnement de travail d'un utilisateur, aussi bien au niveau de son ordinateur que de son bureau en fait. On pourrait même lui pousser des raccourcis sur le bureau. Les possibilités sont quasi potentiellement infinies puisque si vous travaillez longtemps les GPO, même ce qui n'est pas proposé par défaut, en fait, les paramètres de GPO, ce que je vous ai montré là à l'instant, tout ce qui est paramètres de GPO, si je retourne dans le panneau de configuration, bon, il y a un petit peu tout ça. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est extensible. Après, il faut connaître les clés de registre que vous voulez modifier, puisque tout repose sur des clés de registre. Toujours à propos des GPO, il y a une notion d'héritage que vous avez vu naturellement dans la démonstration précédente, c'est-à-dire que j'ai appliqué un objet de GPO au niveau MVA, l'unité organisationnelle utilisateur qui contient mes deux comptes d'utilisateur s'est vu appliquer les paramètres de la GPO de plus haut niveau. Mais que se passe-t-il si je fais une deuxième GPO ? En clair, si je fais une arborescence, que je mets des GPO avec des paramètres dans chacun des GPO, par défaut, tous les paramètres vont fusionner, mais que se passe-t-il si jamais le même paramètre est positionné dans GPO1 et dans GPO2 avec des valeurs différentes ? Par exemple, l'un non configuré et l'autre configuré. Ben à ce moment-là, c'est le GPO lié à l'OU la plus proche de l'objet utilisateur ordinateur concerné qui va se voir appliqué. On va voir ça à l'aide d'une petite démonstration immédiate. C'est-à-dire, je vais un petit peu modifier mon arborescence tout de suite. On a déjà vu l'héritage. Donc, utilisateur, je vais créer une nouvelle unité d'organisation, on va l'appeler, ce seront des utilisateurs spéciaux, je vais l'appeler donc spécial, admettons. Je vais y mettre un utilisateur dedans, je peux en créer un autre, je vais mettre Benjamin directement dedans. Je pars maintenant faire une nouvelle GPO. GPO spécial par exemple. Mon but sera de la lier, et je vais le faire tout de suite, à spécial, à l'OU spécial. Et là, je vais tout simplement forcer l'autorisation du panneau de configuration, c'est-à-dire le contraire de l'OU de plus haut niveau. Donc ça se trouve ici, dans mon panneau de configuration. Et cette fois, je désactive interdire, ça veut dire c'est obligatoire. C'est le nom de l'affirmation. Donc, si on regarde bien ma configuration, j'ai un GPO ici qui dit le panneau de configuration est obligatoire, ici qui dit il est interdit. Donc, pour les utilisateurs qui seront dans spécial, le panneau de configuration sera possible. Vérification. Je vais donc aller sur le poste de Benjamin, par exemple, ouvrir une session Benjamin. Vérifier. Il peut à nouveau changer son fond d'écran, pas de problème. Il a accès au panneau de configuration. En revanche, pour bien vérifier, il hérite quand même du paramètre concernant le réglage du pare-feu, puisque son pare-feu de réseau avec domaine est bel et bien désactivé. Oui, voilà. Donc voilà ce qui clôture ce chapitre 2 sur la mise en œuvre de l'Active Directory. Nous allons bientôt enchaîner avec le module sur l'exploitation de l'Active Directory.